Bonheur partagé avec Diane Felice et Michel Poulain.
Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Bonheur partagé sur les ondes de Radio-VM, l'émission du cœur, l'émission de la générosité. Bonjour Diane.
Bonjour Michel.
Vous pouvez nous présenter nos invités d'aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons, en fait, c'est un couple qui est très engagé dans des missions internationales, un couple très inspirant. Nous recevons Mme Nicole Meunier et M. Jean-Pierre Monette, qui sont tous deux cofondateurs de l'organisme Puits au Mali. Alors, Mme Nicole Meunier agit à titre de régisseur aux loisirs pour la ville de Terrebonne depuis plus de 30 ans. Ça, c'est son emploi à temps plein. Sa grande réalisation est d'avoir fondé un organisme humanitaire international qui, justement, s'appelle Puits au Mali. C'est un organisme totalement bénévole. Elle y travaille quotidiennement ici au Canada et en mission ensuite sur le terrain au Mali, et ça, c'est en plus de son emploi à temps plein. Elle a reçu de nombreuses reconnaissances, dont bénévole de l'année du journal La Revue de Terrebonne, personnalité de l'année, ambassadrice par excellence de la ville de Terrebonne, le prix André Gauthier en développement international, ainsi que des nominations nationales et provinciales telles que médaillée du gouverneur général du Canada, médaillée de l'Assemblée nationale du Québec, ainsi que finaliste canadienne du concours Terre de femmes d'Yves Rocher France. Maintenant, M. Jean-Pierre Monette, qui est le conjoint de Mme Meunier. Il est un policier à la retraite de la Sûreté municipale de Lachenaie. Évidemment, il est cofondateur de Puits au Mali et maintenant consacre la majeure partie de son temps à cette cause unique. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous deux. Bienvenue au micro de Bonheur partagé. C'est rare, Diane, qu'on reçoit un couple qui
oui.
vont venir nous parler d'une œuvre absolument extraordinaire. Et ma première question est pour vous, Mme Meunier. Quelle est la mission de Puits au Mali?
C'est tout simplement de donner de l'eau potable aux gens qui n'en ont pas. Alors, nous, on se consacre au Mali, donc on fait des forages d'eau potable au Mali.
Alors, on parle ici là, d'une organisation avec de l'ingénierie et tout ça, là, pour,
oui, oui.
pour trouver de l'eau.
Oui, absolument. On doit faire des études géophysiques avant d'implanter un forage. Et quand l'étude est faite, on a ce rapport-là de l'équipe des géophysiciens. Et ensuite, quand on arrive 6 mois plus tard, on va débuter les forages aux endroits que le géophysicien aura recommandé, là, selon l'étude.
Toute cette équipe-là, vous la trouvez comment?
On a un partenaire où il est un peu tout pour nous. Là. C'est nos yeux, nos oreilles, un travailleur social,
un chauffeur, un interprète.
Un interprète.
Un facilitateur.
C'est ça. C'est Yacouba Marico qui est vraiment notre personne contact au Mali. Et ça fait 7 ans qu'on travaille avec lui. Et Yacouba débusque, ça fait partie de ses tâches et des mandats qu'on lui donne de nous trouver à chaque année. Il va faire un devis estimatif pour les forages qu'on aura programmé de faire. Et il nous retourne à ce moment-là les devis et tout ce qu'on a besoin là, pour aller en mission.
Et est-ce que travaille bénévolement ou il y a quand même des ressources qui...
Non, Yacouba est payé parce qu'au Mali, mon Dieu, un taux de chômage extraordinaire. Et Yacouba fait partie des gens qui sont payés. En réalité, nous, on paye Yacouba, puis son salaire est inclus dans le montant du devis. Et on va, dans ce montant-là, on paye la compagnie de forage, celle qui a la foreuse, et on paye aussi les villageois là, pour faire différentes petites choses. Peut-être qu'on en parlera un peu plus loin. Là, mais...
Qu'est-ce qui détermine l'endroit? Est-ce que ça va aux besoins des différentes communautés où vous êtes?
Bon, nous, puis au Mali, on a comme critère de base de choisir des villages qui ont 500 personnes ou près de 500 et plus. S'ils ont moins de 500, on ne les considère pas pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais c'est parce qu'on essaie d'abreuver le plus de personnes possible. Et comme on est un organisme qui n'est pas subventionné aussi, on essaie d'investir tous les sous, tous les dons qu'on reçoit dans un village qui est plus gros. Et donc, ça aussi, ça fait partie des tâches de Yacouba. On a une liste quand même exhaustive là, qu'on a eue du bureau d'hydrologie de Bamako il y a quelques années déjà. Et il y a un répertoire là, de 113 pages où sont listés les villages qui n'ont pas encore accès à de l'eau potable. Et là, on va dire à Yacouba, bon, mais cette année, on veut travailler dans la région de Sikasso, dans la région de Senankoroba. On donne la région. Puis Yacouba va partir aller rencontrer le maire de cette grande région-là. Puis il va s'assurer, il va marcher sur le terrain vraiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de forage fonctionnel. C'est déjà arrivé qu'on a choisi un village qui avait un forage, mais le forage ne fonctionnait plus. Ça avait été fait dans le passé et, disons, mal fait. Et à ce moment-là, lui, il nous envoie ses recommandations un coup qu'il a rencontré quelques villages. Il va nous envoyer ça et on va faire le choix des villages à qui on va offrir le forage.
Qu'est-ce qui vous a amené au Mali?
Il y a plus de 7 ans, j'avais un appel vraiment viscéral d'aller en Afrique. J'allais à la petite école à La Chenée, l'école Notre-Dame, puis des religieuses qui nous enseignaient nous parlaient de l'Afrique et nous disaient comment les enfants mouraient de soif, comment mouraient de faim. Et puis moi, déjà à 6 ans, ça me bouleversait terriblement, ça me faisait mal physiquement, même étant enfant, et je voulais aller sauver ces enfants-là. Et donc, ce besoin d'aider ces enfants-là est resté vraiment ancré profondément en moi. Et je voulais devenir missionnaire, mais je ne pouvais pas être missionnaire parce que à l'époque, être missionnaire, ça voulait dire être une religieuse. Mais je voulais aussi avoir des enfants. Donc, la vie m'a arrangé ça.
Vous êtes maman de
trois
de
enfants.
Et grand-maman.
Et grand-maman de 8 petits-enfants. Et donc, les enfants ont vieilli, ils ont quitté le nid. Et puis ça faisait déjà près de 12 ans que je disais à Jean-Pierre, à mon mari, il faut que j'aille en Afrique, il faut que j'aille en Afrique. J'avais pas choisi le Mali, c'était l'Afrique, là. C'est quand même un très grand continent. Mais c'était viscéral, là. Et j'avais quelque chose à aller porter, quelque chose à ramener chez nous. Il fallait que j'aille. Et finalement, il y a des Québécois qui partaient pour aller au Mali et qui m'avaient entendu dire à quelques reprises qu'un jour, il fallait que j'aille en Afrique. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu veux te joindre à nous? On va sur le terrain, on va voir la réalité du Mali. Et là, ben, j'ai décidé d'y aller parce que c'était...
Un grand rêve pour vous.
Un grand rêve. C'était pas un rêve, c'était une obligation. C'est une grande différence pour moi.
Une mission, en fait.
Une mission, hein? C'est ça, un appel. J'ai quitté avec ces gens-là, mais moi, je voulais... C'était pas compliqué, je les accompagnais, mais j'étais pas avec eux. Moi, j'avais une mission à trouver, j'avais une réponse à trouver à ma question parce que c'était trop...
Viscéral.
Viscéral. Alors, en mettant le pied au Mali, en descendant de l'avion, j'ai tout de suite demandé à l'univers là, de m'éclairer sur ce que je venais faire là. J'étais certaine de trouver ma réponse parce qu'aller en Afrique, là, c'est comme le bout du monde pour bien des gens. À cet âge, je le vois plus comme ça, mais beaucoup de gens encore pensent ça. Et à peine là, quelques jours, 3 jours après être atterri au Mali, l'extrême pauvreté, les enfants qui tiraient sur mon bidon d'eau, qui nous demandaient de l'eau, j'ai beaucoup pleuré et j'ai dit, c'est ma mission, je vais venir leur donner de l'eau. Ils ont un besoin flagrant d'eau. Alors, je me suis engagée sur place. J'avais trouvé ma mission. C'était de donner de l'eau.
Monsieur Monette, est-ce que vous avez suivi dès le premier voyage votre conjointe ou...
Vous voyez là, toute l'énergie qui l'habite. Là. J'ai été baigné là-dedans pendant 12 ans. Puis après la 12e année, j'ai dit, regarde, on va mettre nos bottines où sont nos bobines et on va partir. Et oui, je devais l'accompagner pour la première visite. il y a eu un changement de carrière, puis j'ai commencé à travailler ailleurs. Et à la dernière minute, j'ai pas pu avoir le congé nécessaire, mais Nicole partait quand même avec 12 personnes. J'étais vraiment pas inquiet. Et je vous jure que quand j'ai vu l'avion décoller, j'ai dit aux gens qui m'accompagnaient, elle va revenir et elle va me dire qu'elle veut faire un forage d'eau potable.
Ah oui.
C'est difficile à expliquer où, comment j'ai eu cette intuition-là, mais je savais. Quand elle est revenue, elle m'a dit, « Ah, en passant, j'ai oublié de te dire, je me suis engagé pour faire un forage en Afrique. » Toute une surprise de retour de voyage, là. Mais effectivement, là, j'étais supposé de l'accompagner et ça m'a fait un peu mal au cœur de pas y être, mm-hmm. naturellement. Mais je me suis repris au deuxième.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner votre épouse dans... C'est toute une aventure.
C'est toute une aventure. Tu sais, l'homme, de par sa nature, c'est un pourvoyeur. Puis moi, je fais bien attention à mon épouse. Puis la première fois qu'on a atterri en Afrique, je mesurais 7 pieds 4, je pesais 330 livres. Je n'étais là que pour la protéger. Ça, c'est l'homme. En très peu de temps, j'ai été conquis par la chaleur du peuple, la générosité de ces gens-là. Et ça, définitivement, ça m'a aidé à grandir. J'ai, en tant que policier, mon univers était assez carré. Et ce qui était à l'extérieur, c'était à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur, c'était à l'intérieur. J'avais un peu de difficulté à élargir les horizons là, tu sais, de la logique. Et quand je suis arrivé là, ça a définitivement changé ma vie. Quand tu es confronté à la pauvreté qu'il y a là, tu te dis, waouh, j'ai vraiment un bout de chemin à faire. C'est la vraie pauvreté. La pauvreté se voit, ça s'entend, ça se sent, ça se goûte. Ça passe à travers tous les sens. Les gens là-bas sont extrêmement généreux. Et ça a changé ma vision sur la vie, si on peut m'exprimer comme ça.
On est déjà rendu à la première chanson. Et je pense qu'on est vraiment dans la thématique, dans tout ce que vous venez de dire, parce que c'est Jean-Pierre Ferland, Une chance qu'on ça. Pourquoi, Mme Meunier, cette chanson?
Une chance qu'on ça, c'est parce que, effectivement, si j'avais pas Jean-Pierre, si j'avais pas mon GP avec moi, je pourrais vraiment pas faire cette mission-là. C'est tellement d'heures, tellement complexe, tellement...
C'est plus gros que nous.
C'est plus gros que nous. Il faut un homme qui comprenne ça. Il faut un homme versé vers l'humain. Il faut plein de qualités vraiment humaines pour faire ce genre de mission-là.
D'où la chanson, Une chance qu'on soit.
Et c'est ça, une chance qu'on soit, tout le... une chance que je l'ai.
Une chance que je t'ai. Je t'ai. Tu m'as une chance comme ça. Quand tu m'appelles mon petit loup, avec ta petite voix, tu panses mes pleurs, tu tues tous mes papillons. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance. Ça. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi. Mon bon chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs. Une chance que je t'ai. Je t'ai,
tu m'as une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça, je ferai tous les planétariums. Je t'ai, tu m'as. Cherché dans toutes les galaxies, une chance comme ça, une chance qu'on s'aime.
De retour à l'émission Bonheur partagé sur les ondes de Radio VM, nous sommes accompagnés de Monsieur Jean-Pierre. Tantôt, Diane nous avait dit Marcotte,
oui,
mais c'est Monette.
Oui.
Et Madame Nicole Meunier, on parle de l'organisme Puy au Mali.
Madame Meunier, racontez-nous votre première mission au Mali. J'imagine que c'est assez impressionnant, là.
C'était assez compliqué, effectivement. Donc, je reviens un petit bout en arrière. Lors de mon premier contact au Mali, je me suis engagée sur place et on était allé visiter des endroits et on avait demandé au groupe un forage à un endroit puis un autre lieu, un forage. Alors, moi, je savais qu'il y avait déjà deux places là, que je pouvais faire un forage. Donc, je dis à ce moment-là à un homme qui nous accompagne, Souleymane, et qui traduit pour nous, comme je me suis engagée pour faire un puits, dis-moi, toi qui es d'ici, dans laquelle des places je dois commencer le premier forage. Est-ce que c'est chez Alov, c'est un genre d'orphelinat, mais dans Bamako, dans un petit banlieue de Bamako, disons, qui est la capitale Bamako, ou à Kabalabougou, qui est un village en brousse et où mon cœur était resté accroché. Donc, Souleymane me dit, ce serait bien que tu commences chez Alov, parce qu'à cet endroit-là, il y a déjà des lavoirs en béton, et ça, si tu fais un forage là, parce qu'ils n'ont pas d'eau, qu'il me dit, on va pouvoir remplir ça. Les femmes vont avoir un travail. Ils vont aller chercher les vêtements dans les maisons aux alentours et ils vont venir laver, ils vont retourner ces vêtements-là, ils vont avoir un salaire, ils vont gagner dignement leur vie, ça va leur permettre de vivre mieux puis tout ça. Alors, je trouvais que ça faisait du sens. Donc, on débarque exactement 9 mois après que moi, j'étais allée au Mali, c'était comme une grossesse. On avait l'argent pour débuter le forage. Et on arrive chez Alov avec Yacouba à ce moment-là. Et on a même été obligé de briser le mur de l'enceinte de cette organisation-là pour faire rentrer la foreuse. Et le travail n'était pas encore débuté. Il arrive un problème de mécanique et ils ont dû souder une partie là, d'un outil qui servait à forer. Et là, Jean-Pierre, mon mari, qui est une vieille police à la retraite, il me dit, il voit un boyau d'arrosage qui passe à mes pieds. Puis, il y a le réflexe d'un policier, naturellement. Puis, il dit, c'est quoi ça, ce boyau-là qui passe à nos pieds?
On va enquêter.
Oui, on va enquêter. Là, moi, je me dis, ah non, tu sais, laisse ça tranquille. Moi, je suis venue il y a 9 mois, puis Mme Bengali nous a dit qu'elle avait besoin d'eau, puis il n'y a pas d'eau potable ici, puis bon. Mais lui, il a suivi son intuition, heureusement. Il a suivi le tuyau d'arrosage, puis au bout du tuyau, sur le mur, il trouve un compteur d'eau. Compteur d'eau dit qu'il y a de l'eau, ils sont facturés, c'est ça.
C'est ça.
De l'adduction, comme ils disent là-bas. Et là, là, nous, on s'est vraiment... Il est venu me trouver, puis là, il m'a dit, il y a de l'eau potable sur le site. Et là, ça fait 9 mois qu'on dit à tout le monde de chez nous qu'on va donner de l'eau à un endroit où il n'y en a pas. Donc là, JP me dit, c'est toi qui es la principale intéressée. C'est à toi de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Mais jamais, on va revenir au Québec en ayant la conscience tranquille si on accepte de continuer à forer à cet endroit-là. Et là, on a dit, on abandonne tout ça. On a pris la décision de laisser tomber ça en plan. Et on a quitté sur le champ avec Yacouba et on est parti à Kabalabougou. Là où mon cœur, pendant 9 mois, moi, je disais à JP, puis je disais à tout le monde, c'est-tu de valeur qu'on le fasse chez Alove? Madame Ba, elle mérite d'avoir ça, puis ça, c'est en brousse, puis je voulais qu'on fasse ça là. Alors, vous voyez, la vie a fait en sorte que la vérité a sorti, finalement, grâce à l'enquête de monsieur. Mais ça nous a vraiment jeté à terre là, cette situation-là. Puis j'ai confronté Souleymane. J'ai dit, bien, Souleymane, tu sais, on a ramassé 16 000 $ canadiens parce que les sous avaient, notre argent avait perdu de la valeur. Ça coûtait 16 000 $ à ce moment-là. Il n'est pas question qu'on gaspille 16 000 $ pour faire un forage, un endroit où il y a de l'eau. Et là, on a abouti à Kabalabougou le 31 décembre 2008 et on a foré dans la nuit du 31 décembre et donc le 1er janvier 2009, l'eau coulait déjà sous la foreuse. Quand nous, on est arrivés en après-midi, là, on a pleurer, là, les villageois, c'était, les femmes criaient, ils embrassaient les pieds des foreurs. C'était une réalisation incroyable pour nous. On a vécu des sentiments, là.
Donc, la veille du jour de l'an, oui, vous faisiez un forage.
Oui, mm-hmm, oui, c'est ça. C'était un cadeau de l'année pour ces gens-là, le don de vie.
J'aime votre question parce que on réalise à quel point on est dans notre mission, que ce soit Noël, jour de l'an, que ce soit l'été, il n'y a pas de temps, mm-hmm, pour donner.
Et vous, Monsieur Monette, comment vous avez vécu cette première expérience?
Ah, mon Dieu Seigneur! Comme je vous ai expliqué tantôt, c'était ma première expérience. Je ne suis pas un voyageur. Si mon nom était Jacques Cartier, là, le Canada n'existerait pas. C'est vraiment pas compliqué. Je serais encore en France. Elle m'a amené à me découvrir, à découvrir d'autres choses. Comme je disais tantôt, quand je suis arrivé au Mali, je pesais 330 livres, je mesurais 7 et 4, et ce n'était que pour la compagnie.
Oui, oui, oui.
OK. Quand on est rentré chez Alove, il y avait à peu près une centaine d'orphelins. Et ça aussi, ça l'a penché dans la balance de faire un forage à cet endroit-là. Puis, quand j'ai découvert le boyau, il se rendait à une clôture. Tu sais, des fois, on veut voir, des fois, on ne veut pas voir. Mm-hmm. Là, je me suis dit, ah, mon Dieu, il est donc bien gentil, le voisin d'à côté. Il passe de l'eau avec une champlure sous la clôture. Mais là, j'ai vu des broussailles, puis derrière, il y avait effectivement, comme a dit, un compteur d'eau. Ça nous a coupé en deux complètement. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment un petit bout de l'iceberg de tout ce qu'on a pu avoir vécu au Mali.
Parce qu'il doit y
avoir... Étant très cartésien, là, je me suis bien préparé avant de partir. J'ai communiqué avec... une compagnie de finances, une compagnie de carte de crédit, et je leur ai dit, bon, on ne veut pas transporter de l'argent, on ne veut pas passer les douanes avec de l'argent dans nos poches, donc vous allez me donner 4 adresses d'endroits où ils reconnaissent votre carte de crédit et là où on peut transiger. OK? Ils me donnent 4 adresses, je me présente aux 4 adresses, on n'a jamais été capable de sortir un sou d'aucun de ces 4 endroits-là.
C'est plusieurs obstacles.
On est en Afrique. On est à des milliers de kilomètres de la maison. On sent vraiment, là, menotté. Ça va avec la job. On sent menotté et on a une compagnie de forage qui nous regarde, là, comme si on était des dieux, là, puis ils veulent faire un forage. Ils étaient prêts à commencer le forage alors qu'on n'avait pas versé un sou.
Ils ont commencé.
Oui, ils ont commencé. On a une accompagnatrice qui nous dit, ben, j'ai ma visa. On peut essayer. Mais vous savez comment ça marche? Quand tu fais une transaction qui n'est pas habituelle, souvent, ils vont la geler. pantoute. Et on a sorti 20 000 $ dans son compte à elle pour faire notre premier forage. Et on lui a naturellement tout remboursé. Mais tout ça pour dire, là, la multitude, on dirait que le Mali faisait exprès pour nous décourager dans notre mission.
Ouais.
Le Mali, là, il nous a vraiment placé là, des obstacles incroyables. Il fallait avoir un moral de fer, pas d'enfer, mais de fer, pour passer au travers de notre première mission. Ça nous a pavé le chemin. Ça ne pouvait pas être plus difficile que notre première mission.
Et pourquoi on continue?
Pour la mission.
Moi, là, je vais vous avouer que j'ai continué. Moi, j'ai un amour pour mon épouse, là, vraiment.
Ça paraît dans vos yeux. Nos auditeurs ne peuvent pas voir, là, mais il y a beaucoup d'admiration.
Puis, en plus, elle est contagieuse. Elle est contagieuse pas juste pour son mari. Elle est contagieuse de par son énergie, de par son amour, de par... J'essaie de faire attention, là, mais j'ai toujours dit que c'est une mère Thérèse. Ma femme, c'est une sainte. Ça va. Puis, je fais le lien avec ça. Puis, au début, je me plaisais souvent à dire ça aux gens. Puis là, ben, j'avais... il y a longtemps, je n'avais pas dit ça. Mais moi, je l'ai fait par amour. Pour mon épouse, d'abord et avant tout.
Et on passe à travers toutes les difficultés pour arriver, justement, à vos fins et finalement faire des forages. Mmh. Et, justement, il y en a combien de faits, là, depuis que vous avez débuté tout ça?
Bon, présentement, on a 18 forages faits, toujours en fonction, depuis 7 ans. On a une super grosse mission. On quitte le 5 janvier 2016 pour aller faire 16 forages en une seule mission. On en a fait 18 en 7. Là, on s'en va en faire 16 en un. Une mission. C'est immense. Si on met 15 000 $ par forage, multipliez ça par 16, ça vous donne une petite idée de la mission qu'on s'en va faire présentement.
Et on parle de combien de personnes qui sont touchées par ces forages?
Là, on a abreuvé à peu près 20 000 personnes avec les 18. Puis là, ça va être autour de 20 000 aussi, là, parce qu'il y a toujours des petits hameaux autour des villages. Donc, puis au Mali, on aura abreuvé près de 40 000 personnes en 8 ans. Sans subvention, là, c'est des bonnes tapes.
Justement, comment vous financez toutes ces activités?
C'est par des levées de fonds qu'on fait plus dans notre région à nous, là, dans la région de la MRC Les Moulins. Et naturellement, partout où les gens nous demandent d'aller, on y va. Que ce soit pour donner une conférence, une entrevue radio, une entrevue télévision, on va partout. Chaque sou est utilisé puis transformé en eau.
À nos frais. Elle ne le dit pas, là.
Oui.
Elle est trop humble. Mais quand on se déplace, c'est pas plus au Mali qui paye. C'est vraiment nous. C'est notre contribution à nous pour notre organisme.
Nicolas Ciccone, la prochaine chanson. Et voilà, avec Et on est 6 milliards. Pourquoi cette chanson, Mme Meunier? Parce que c'est une chanson qui est... On vient de parler de rassembler les gens et tout.
Oui.
On est dans le ton. Pourquoi cette chanson?
Parce qu'on se sentait vraiment, comme Nicolas Ciccone dit dans la chanson, et au début, ils sont juste deux, puis à la fin, ils terminent et on est 6 milliards. Alors, c'est ce que je souhaite. Un jour, on va être 6 milliards qui fera de la bonté, qui fera du travail humanitaire, qui saura donner à ces pays-là en voie de développement tout ce qu'on peut donner. C'est une chanson qui vient bouleverser, qui vient rejoindre mes valeurs beaucoup.
Ils sont plus de 6 milliards et nous ne sommes que deux à vouloir que l'amour soit le plus grand des dieux. Ils disent que l'on est fou, que nous faisons blasphème, mais nous restons debout. Nous ne les croyons jamais. Ils sont plus de 6 milliards et nous ne sommes que deux à voir que toutes ces guerres ne servent qu'à faire le dieu. Ils disent que l'on est lâche, qu'ils nous mettront des chaînes, mais malgré toute leur rage, nous choisissons la paix. Bien sûr, il y a des jours où nous perdons courage. Bien sûr, il y a des jours où nous faisons naufrage. Mais malgré tous ces jours, malgré tous ces outrages, nous croyons bien qu'un jour, qu'un beau jour, ils sont plus de 6 milliards, et nous ne sommes que 2 à croire que tous les hommes ont le droit d'être heureux. Ils disent que l'on est sous, que l'enfer est sur terre, mais malgré leurs injures, nous croyons en demain. Bien sûr, il y a des jours où nous perdons courage. Bien sûr, il y a des jours où nous faisons naufrage. Mais malgré tous ces jours, malgré tous ces outrages, nous croyons bien qu'un jour, qu'un beau jour, nous serons 6 milliards, et ils ne seront plus rien. Nous unirons nos rêves, nos joies et nos chemins. Nous irons sans détour retrouver la lumière. Nous serons 6 milliards, et ils ne seront plus rien, plus rien.
Vie financière, une présentation du groupe Pichet Blondin de chez RBC Dominion Valeurs Mobilières. Écoutons M. Benoît Blondin, gestionnaire de portefeuille associé. M. Benoît Blondin est gestionnaire de portefeuille associé au sein du groupe Pichet Blondin de RBC Dominion Valeurs Mobilières. Il est aussi gestionnaire de patrimoine ainsi que détenteur du titre de Fellow de l'industrie des valeurs mobilières. M. Blondin, en tant qu'investisseur, à quoi dois-je m'attendre d'une équipe de gestion de portefeuille privée comme la vôtre?
Le premier mandat d'un gestionnaire de portefeuille est de bien comprendre vos objectifs de placement. Il peut à ce moment-là vous aider à mettre en œuvre une stratégie d'investissement adaptée à vos besoins. Il doit aussi vous aider à démystifier les différents véhicules de placement et déterminer de quelle manière ils peuvent être utiles à votre portefeuille. Il se doit enfin de vous aider à ne pas perdre de vue vos objectifs et ce, quelle que soit la conjoncture des marchés. Un gestionnaire vous libère non seulement de la gestion quotidienne de vos placements, mais aussi des émotions qui lui sont rattachées.
On parle souvent de plan financier. En quoi est-ce nécessaire d'avoir un plan?
Votre équipe de gestionnaires de portefeuille doit bien prendre connaissance de l'ensemble de votre vie financière pour connaître vos besoins spécifiques et y répondre avec succès. Que vous soyez membre du comité des finances d'une fondation, entrepreneur, professionnel, cadre supérieur d'entreprise ou retraité, un plan financier bien ficelé est votre clé pour réussir une vie financière confortable.
Monsieur Blondin, pourquoi faire affaire avec une firme reconnue?
Mais tout simplement pour la tranquillité d'esprit. Nous sommes associés à RBC Dominion Valeurs Mobilières, la plus grande maison de courtage au Canada, ce qui nous confère un accès privilégié à une multitude de services de support. RBC Dominion est aussi membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
Quelle est la mission du groupe Pichet Blondin de RBC Dominion Valeurs Mobilières?
Notre mission est claire. Il s'agit de mettre notre expérience, nos compétences et notre méthodologie de travail à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous nous assurons aussi de bien couvrir tous les aspects de votre vie financière, notamment la protection de votre patrimoine, la succession, la philanthropie et les impôts. Bref, c'est d'être votre coach de vie financière.
C'était Vie financière avec M. Benoît Blondin, gestionnaire de portefeuille associé chez RBC Dominion Valeurs Mobilières. Pour information, composez le 450-686-1075 ou consultez le site Internet groupepichetblondin.com. RBC Dominion Valeurs Mobilières est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
De retour à Bonheur partagé sur les ondes de Radio-VM, nous sommes accompagnés de Mme Nicole Meunier et de M. Jean-Pierre Monette de l'organisme Puits au Mali.
Mme Meunier, vous nous avez parlé tout à l'heure que vous partez en mission pour aller forer 16 puits. Mm-hmm. Vous partez en janvier et vous partez pour 3 ou 4 mois à peu près?
Oui, en réalité, j'ai demandé un congé de 6 mois pour aller faire cette grosse mission-là de 16 forages. Et c'est certain que ça va prendre un minimum de 4 mois parce qu'habituellement, On quitte un mois et on fait 4 forages. Donc, mm-hmm. l'équation est...
Comment on se prépare à une mission comme celle-là? Parce que j'imagine qu'il faut préparer le plus possible, mais en même temps, ouais. il y a toujours des éléments qui sont hors contrôle. Alors, comment on se prépare?
Oui, mais maintenant, on est rendu super bon.
Vous avez votre propre cahier de charge.
Oui, on a appris sur le tas, comme on dit, mais on a nos étapes là, sur un document pour la gestion des étapes à faire, justement, dont celle de la rencontre des villages, premièrement, par Yacouba. Ensuite, vient l'étape des études géophysiques. On passe cette commande-là, on reçoit tout ça, on accepte ou non les villages proposés. Quand ça, c'est fait, là, on a la recherche pour la compagnie, l'entreprise qui va faire le forage comme tel, parce que Yacouba ne possède pas de foreuse. Ça coûte près de 1 million canadien une foreuse neuve, usagée 350 000, juste la foreuse. Donc, Yacouba est trop... il n'y a pas ces moyens-là. Et ensuite, quand cette étape-là, elle est faite, ben nous, de notre côté, on a, entre autres, à mettre en branle, on a un formulaire d'engagement pour chacun des villages. On doit monter ce formulaire-là. On doit préparer une affiche aussi ici au Québec qu'on envoie chez un contact à nous qui nous fait les affiches pour apposer sur chacun des puits. On a des donateurs qui veulent que leur nom soit inscrit, d'autres que ça reste anonyme. Donc, on a ça à faire aussi. Et les fameux bagages à apporter pour survivre au Mali. Et c'est un peu complexe. Les valises, c'est une étape assez importante aussi avant de quitter pour le Mali.
Parlons-en justement du quotidien, parce que vous ne demeurez pas dans les grands hôtels. Vous êtes là pendant 4 mois et vous vivez au quotidien avec la population.
Oui, on n'est pas dans les hôtels du tout, comme vous dites. On est vraiment dans un village où est-ce qu'ils ont un campement. Où est-ce qu'ils peuvent nous accommoder? On prend ce qu'ils ont à nous donner. Ça fait partie aussi du travail de Yacouba, de trouver un campement qui n'est pas très loin des endroits où on va forer pour y vivre. Parfois, il n'y a pas d'électricité et même pas d'eau dans le puits quand on revient le soir. Là. Souvent, c'est comme ça. Et quand il y a eu de l'électricité, c'est souvent une petite pochette, comme on dit, une lumière blafarde, là, qu'on ne voit rien. Et même pas de tablette pour serrer ou de tiroir, de bureau, de commode. On vit dans les valises pendant un mois le soir quand tu arrives à fouiller ton linge, même pas pouvoir te laver. C'est vraiment des conditions de vie assez difficiles et au niveau de l'hygiène. Entre autres, pour une femme, c'est un peu compliqué, mais on s'habitue. Faut pas être princesse.
On vit parmi les margouillards, les souris, les araignées, ainsi de suite. On se lave avec une tasse d'eau qui nous coule sur la tête. Là. C'est vraiment des conditions minimales.
Pour la nourriture aussi, hein, c'est différent. Comment vous vous nourrissez?
Là, c'est notre première grosse mission. On s'en va en faire 16. Comme on dit, habituellement, on ne part pas en bas de 3 forages. Il faut vraiment maximiser chaque dollar et on ne partirait plus. Au début, on se traîne avant de marcher, on marche avant de courir. Au début, on est parti. On a fait un forage. C'est là qu'on est allé chercher notre expérience. Maintenant, mathématiquement parlant, pour justifier le coût des billets d'avion, il faut au moins partir pour en faire 3. Quand je pars un mois, je perds 10 livres. On mange ce qu'on peut. On partage les repas avec les villages où souvent on couche. Et ils vont nous faire avec notre eau embouteillée parce qu'on ne peut pas encore boire. On peut boire l'eau de nos puits.
Oui.
Mais on ne peut pas boire l'eau de leur puits à eux, le puits conventionnel, les puits traditionnels. On mange du couscous, du riz, ainsi de suite. Ça tourne autour de ça. On mange, je me plais toujours à dire, on mange du riz avec la sauce tomate. On mange du riz avec de la sauce à l'achide. On mange du couscous avec la sauce tomate.
Et du couscous.
Fait que c'est toujours la même chose. Mais honnêtement, à chaque fois que je reviens d'une mission, j'ai perdu 10 livres. C'est vraiment des conditions difficiles, mais honnêtement, là, ça va nous faire des histoires à raconter quand on va être vieux.
Parce qu'on est tout jeune.
Et justement, les histoires que vous racontez à vos enfants et à vos petits-enfants, est-ce qu'ils sont curieux de vos missions? Est-ce que vous leur racontez des histoires, montrez des photos?
Ah oui, c'est ça. Et ils ont chacun une petite brochure depuis au Mali, puis ils savent, là, ils disent « Nini, Nini, donne de l'eau aux petits-enfants qui n'en ont pas. » Ils le savent, puis ils regardent les photos, puis là, tu sais, les gros ventres des petits-enfants, ils savent que c'est parce que les enfants ont des problèmes de malnutrition puis qu'ils boivent pas assez.
Ils sont moins tristes de perdre leur maman Nini. Et leur grand-maman,
oui.
Nini, pour 4 mois.
Oui, c'est ça.
Même les grands ont eu la difficulté un peu avec ça au début. Le premier farage, c'était comme, waouh, une expérience. Mais quand on leur a dit qu'on retournait, puis là, ils nous ont vus trimer dur. Pendant 9 mois, là, ça a été... mon Dieu Seigneur, on a fait des levées de fonds qui donnent 1 000 un autre levée de fonds qui en donne 200 pour ramasser 15 000 $. Ça prend beaucoup de levées de fonds. Ça a pris énormément de notre temps. On s'est raffiné. On a appris à chercher ailleurs dans des levées de fonds un petit peu plus lucratives. Mais pour revenir aux enfants... quand on leur a dit qu'on retournait, mais on dit ça va pas bien. Mais ici, ils sont faits à ça. Ils ont vu qu'on était vraiment déterminés et que peu importe ce qu'il y avait à en dire, c'est une mission de vie. Ouais. Ça fait partie de nous.
En plus des puits que vous faites, oui, il y a aussi des projets parallèles que vous faites pendant que vous êtes là-bas. Quels sont ces projets?
Bien, ça a débuté quand la première fois on est allé au Mali. Moi, je suis née sur une terre. Puis, je m'étais dit, s'il nous reste des sous après avoir payé le forage, je voudrais donner quelque chose qui est significatif pour moi. Donc, acheter un bœuf et une charrue, parce que mes parents ont travaillé sur la terre. Et finalement, on a eu toute la misère du monde à réaliser ça. Là, on s'est promené de village en village pour acheter un bœuf, mais dès qu'on arrivait à l'autre village, le prix avait augmenté. Il était rendu qu'ils nous vendaient une chèvre plus chère que la première fois, le premier bœuf qu'on nous avait offert. Mais on a acheté un bœuf et une charrue qu'on a offert dans un village. C'est la communauté qui a choisi le villageois qui allait recevoir ça. Le monsieur avait 10 enfants. Et on a convenu avec lui que ce bœuf-là et cette charrue-là devaient servir à tout le village.
À la communauté.
À la communauté.
4 villages.
C'est ça.
Ses enfants tiraient la charrue. Il attelait ses enfants sur une charrue pour faire les sillons. Puis nous, on arrive avec un bœuf.
Mais là, c'est une petite charrue.
C'est comme s'il avait gagné à la loterie, là, lui. Là. Comment ça se fait que c'est lui qui a été choisi? Il a été choisi à partir de la rencontre des 4 chefs. Et ils ont choisi celui qui était le plus productif des villageois. Et c'est lui qui a eu la... Mais par contre, il y avait quelque chose de rattaché à ça. Là, il pouvait labourer plus grand, mais il devait partager plus.
C'est absolument incroyable. On est en 2015.
Ouais.
Vous avez des histoires qui sont absolument hallucinantes.
Mais on a aussi des moulins à moudre qu'on donne. Des moulins
ça,
à moudre,
c'est
vraiment un don incroyable. Encore là, c'est pour les femmes, parce que c'est elles qui travaillent pratiquement jour et nuit. Un moulin à moudre pour les céréales, le mil, le fougneau, le sorgho, ces choses-là. Et on a vu un village que les femmes devaient marcher 15 kilomètres pour aller faire moudre leurs grains. Pensez-y, 15 kilomètres, c'est épouvantable. Quand on a donné le moulin à moudre, c'est toujours la joie incroyable quand on offre quelque chose.
Alors, on va aller faire un petit tour en Afrique, Mme Meunier, parce que vous nous avez apporté « Music in Africa ».
Ah oui. Allons-y gaiement.
Music in Africa. Well, we'll be the drum. Well, the music comes. Music in Africa. Well, we'll be the drum. Well, the music comes. Music starts in Africa. Well, the people all are chanting song. Young and old in Africa. We sing and dance all day long. We're happy.
We're happy.
We're joyful.
We're joyful.
Music in Africa. Well, we'll be
De retour à l'émission Bonheur partagé sur les ondes de Radio-VM. Nous sommes en compagnie de Mme Nicole Meunier et de M. Jean-Pierre Monette de l'organisme Puits au Mali.
Mme Meunier, quand un puits est mis en fonction dans un village, qu'est-ce que ça change pour la vie du monde?
C'est surtout le travail quotidien de la femme qui change au niveau de la recherche de l'eau potable, mais les conditions de vie, la santé des enfants, la santé de tout le village qui change, parce que là, c'est de l'eau potable qu'ils ont à boire. Et il y a un médecin qui nous a dit, justement, à Kabalabougou, lors du premier forage, il nous a dit, donnez-nous un deuxième forage à Kabalabougou parce que votre eau potable nous sert plus que tous les médicaments qu'on peut donner aux gens. Parce que quand tu continues à boire de l'eau contaminée, la maladie reste et on s'en sort pas.
Mettez-vous à la place d'une maman qui perd son enfant à cause de la consommation d'eau contaminée. Un enfant sur cinq n'atteint pas son cinquième anniversaire pour des raisons directement reliées à la consommation de cette eau-là. Là, on arrive avec un forage qui produit de l'eau potable tant ou aussi longtemps qu'il en vole, 24 heures par jour. Elle peut maintenant faire à manger, donner à boire et... Même le chef de village, lors de ma dernière visite, là, il me touchait aux mains comme ça et disait « Mon peuple est plus en santé grâce à votre eau. Même mon bétail est plus en santé grâce à votre eau. » Ça change tout. Je vous conte une anecdote. Là. Lors de notre premier forage, le géophysicien avait choisi par hasard, il a choisi pas par hasard, mais à côté du villageois qui faisait les blocs de banco. C'est des blocs faits en terre avec de la paille. Il était la personne désignée pour faire des pierres pour clôture ou pour les huttes. Là, on fait un forage à côté de chez lui et la terre qui en sort, le sil qui sort du trou, c'est exactement ce qu'il a de besoin pour faire ses pierres. Et j'ai dit à mon épouse, il va venir fou, il va faire une attaque de cœur, c'est sûr. Il y a un moule en bois d'une épaisseur de 4 pouces, gros, mettons un pied par 6 pouces, là. Il a fait 1000 blocs en dedans dans la même semaine. C'était incroyable. Il nous a monté une montagne de blocs. J'avais l'impression qu'il pensait qu'il n'y en aurait plus ou ça disparaîtrait ou qu'il rêvait. Il a vraiment... ça change beaucoup de choses. Ça lui a permis d'en vendre dans un village voisin.
Qu'est-ce qui se passe avec... Votre engagement est indéfectible. On l'entend depuis les dernières minutes. Qu'est-ce qui arrive pour l'avenir? Là, vous allez en mission. Il n'y a pas personne d'éternel. Comment vous voyez le futur de Puits au Mali?
Bon, moi, là, je souhaite vraiment avoir la santé. Si j'avais le choix, je choisirais de faire ça jusqu'à 80 ans. Donc, mais On ne sait pas. Alors, c'est sûr qu'on lance autour de nous des messages pour rencontrer des gens qui ont la philosophie qu'on a là, pour Puy au Mali, que ce soit du bénévolat. Je le demande à l'univers. Moi, c'est mes demandes, je les adresse vraiment à l'univers. Mettez sur notre route des personnes bien intentionnées, des personnes qui peuvent nous aider de toutes les façons possibles à mener à bien notre mission et dont de la relève. Alors...
Comment on concilie travail et mission? Parce que vous n'êtes pas encore à la retraite, M. Monette.
Oui.
En fait, une retraite de la vie de policier, mais pas une retraite. Hein. On s'entend que vous êtes très occupé.
30 ans par semaine.
Ah oui. Hein. Comment on concilie, Mme Meunier?
Bien, écoutez, honnêtement, là, c'est certain que depuis que JP est à sa retraite, depuis deux ans, ça m'aide énormément. Mais sinon, moi, j'ai 2 kilomètres à faire pour aller travailler. Alors, ça facilite de ce côté-là. Mais le matin, en me levant, c'est Puy au Mali à l'ordi. On a toujours des choses à faire. Le midi, je reviens dîner à la maison, Puy au Mali. Le soir, en revenant, Puy au Mali. Puis les week-ends, il y a du Puy au Mali. Mais malgré tout ça, honnêtement, j'arrive à départager et à voir mes parents, les amis, mes enfants. On donne beaucoup de temps. Je ne sais pas comment j'arrive à tout faire ça, mais on concilie.
C'est une organisatrice en pair.
Ouais, tout rentre.
Pour les gens, justement, qui souhaiteraient vous donner un coup de main, enfin, avoir de l'information sur votre organisme, vous avez un site Internet, vous avez un numéro de téléphone, des coordonnées, on va les donner tout de suite.
Oui, absolument. C'est la case postale, je vais le donner en chiffres, 20018, Grande Allée à Terrebonne, et le code postal J6W0C9. Le téléphone 450-416-4789.
Et le site Internet, l'adresse Internet?
www.puis, toujours avec un S, le mot puis, puis au Mali, tout ensemble. .org.
Quand vous dites puis au Mali, on va l'épeler parce que ce n'est pas puis avec un S, A-U.
Non, puis P-U-I-T-S-E-A-U-M-A-L-I. .org.
Certainement que ce n'est pas un hasard, le S appui.
C'est
invariable.
Invariable.
Ah, si vous regardez dans le dictionnaire, le pui prend toujours un S, même s'il y en a juste un.
Ah, ouais. Ben oui,
et il y a beaucoup d'informations sur le site Internet. J'y suis allé. Alors, les gens, il y a des photos, parce que les dons se rendent à destination, les puits sont faits, et on a justement sur le site Internet des photos, des témoignages, des vidéos. Ouais. Les gens peuvent voir effectivement.
Ils nous voient en action.
Puisque vous parlez de l'argent qui se rend, nos frais d'administration de l'année passée étaient de 1,1%.
Alors ça, pour les donateurs, c'est
incroyable.
C'est une grande chose. Ouais.
C'est notre volet bénévolat qui fait ça. Mm.
On est déjà rendu à la dernière question que l'on pose à tous nos invités et on va vous la poser à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir après une émission aussi extraordinaire, après avoir entendu des missions, vous faites des puits au Mali?
Vous changez la vie des gens.
Vous changez la vie des gens, c'est exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Du financement encore pour pouvoir donner encore plus de forage à plus de villages possibles. De l'eau, c'est la vie. C'est vraiment une souffrance extrême que de manquer d'eau. J'en ai fait moi-même l'expérience involontairement là-bas, là, à 18 heures sans eau. Là. Je ne sais pas comment les gens font en période de sécheresse. Avec leur puits traditionnel, quand on n'est pas là pour leur donner un forage. Donnons pour de l'eau à Noël cette année.
Monsieur Monette.
De mon côté, pour avoir combattu la bactérie mangeuse de chair et d'avoir sorti victorieux de cette maladie-là grâce à une forme physique, selon les médecins, qui était exceptionnelle, moi, je rajouterais à la réponse de mon épouse la santé. Mmh. Avec la santé, on peut se permettre de rêver. Aussi grand qu'il est possible de rêver.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine, Diane, on vous souhaite de poursuivre cette formidable mission qui est absolument extraordinaire et on invite les gens à aller sur votre site Internet. On va redonner l'adresse comme il faut parce que, hein, pour être sûr, c'est Puy au Mali, P-U-I-T-S-E-A-U-M-A-L-I.org. Alors, on invite les gens à se rendre sur le site Internet. Et je terminerai, vous avez sûrement vécu des aventures en 2 minutes, là. Est-ce qui vous est arrivé? Parce que ce qui m'impressionne, c'est le quotidien que vous vivez au Mali. Vous vivez le quotidien avec ces gens.
Oui. Rapidement, oui. Je vous réponds. Pendant qu'on était en train de faire un forage, il y a eu une tornade.
Ah oui.
Et pour les gens du Mali, même les gens, ils étaient installés d'universitaires qui étaient avec nous. Quand ils ont vu la tornade, pour eux, c'est le diable. C'est ce qu'on nous a expliqué. Puis là, la tornade a fait tomber un édifice. Puis moi, en tant que policier, je me suis mis à courir vers la tornade pour la contourner et aller voir s'il n'y avait pas personne de pris sous le mur. Et en courant vers la tornade, elle a bifurqué, puis elle s'est éloignée de moi. Et je suis devenu le blanc qui chassait le diable. Oui. Il chassait. Le lendemain, là, il me pointait du doigt, puis il me disait « c'est lui ». Puis là,
le chasseur de diable.
Mais c'est des centaines
de toutes sortes de choses
qui nous arrivent au Mali. C'est vraiment fantastique.
Il faudrait peut-être écrire un livre. Hein?
Ah oui, le livre
c'est déjà débuté.
Ah oui? Oui,
débuté. Je suis un écrivain dans l'âme, là. Mais,
qui manque de temps.
Ben, vous viendrez nous en parler de votre livre. On va vous réinviter à Bonheur Partagé. Merci infiniment à tous les deux.
Merci. C'est nous qui vous remercions.
Et bonne mission en janvier prochain.
Merci beaucoup.
Bonne mission. À la co-animation, Diane Felice, à la régie, Vital Côté. Ici Michel Poulin qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Bonheur Partagé. Vous pouvez aussi entendre cette émission sur le site internet de radiovm.com sous l'onglet Écouter, émission archivée et faites le choix de l'émission Bonheur Partagé dans l'onglet Sélectionner une émission. Nous vous invitons à demeurer à l'écoute de Radio VM.